Bonjour à vous. Et avant de commencer, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici les mains grands ouvertes devant toi, prêts à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs, nos pensées, à ces paroles. Seigneur, que moi-même je sois effacé et que ce soit toi qui nous parle à travers moi. Veuille encore nous instruire, renouveler, nous émonder. Seigneur, nous mettre en marche, Père, pour l'avancement de ton œuvre ici. Que ton nom seul soit glorifié au milieu de nous. Amen. J'ai résolu en mon cœur, ça vous dit quelque chose, de faire un parcours avec vous dans le livre de Daniel. Et la semaine dernière, nous avions commencé en chapitre 1 à quelque chose sur Daniel, un livre qui a une grande portée pour les chrétiens que nous sommes. Et aujourd'hui, nous méditons quelques versets au chapitre 2. Versets 17 à 30, un texte d'une grande importance pour la compréhension de tout le livre de Daniel, parce qu'il nous offre des raisons théologiques dans lesquelles fonder notre espérance. Alors je vous propose de lire ce texte de Daniel chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'à 30. Vous êtes là? Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion de Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le mystère fut révélé à Daniel, dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les anges, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères. Un qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit. Dans ton lit, au roi, tu t'es monté plutôt des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite. et celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Jusque-là, notre lecture. Généralement, lorsque nous évoquons l'histoire de cet homme, Daniel, hein, en arrivant au chapitre 2, nous nous focalisons essentiellement sur deux parties du chapitre. La première partie et la troisième partie, dernière partie. La première qui met l'accent sur la tension et le danger qui existe pour ces trois bonhommes, enfin pour ces quatre bonhommes. Ensuite, l'accent est mis sur la résolution de la tension dans la troisième partie du chapitre. En particulier sur le sens de la révélation qui est faite au roi Nebuchadnezzar, sur ce qui arrivera dans le futur, notamment la venue, le règne du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Et notre texte qui se trouve entre les deux est souvent laissé à l'abandon. Mais comme je l'ai dit, s'avère être capital pour la compréhension de tout le livre de Daniel. Parce qu'elle renferme là la raison de l'espérance de ce peuple qui se trouve en exil, mais pas seulement. Ce texte aussi vaut pour nous et nous donne également la même espérance. Parce que nous aussi, je le rappelais la semaine dernière, nous sommes en exil sur cette terre. Nous qui appartenons à Christ, au Seigneur Jésus. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ici, il y a matière dans ce texte à fonder notre espérance. De façon théologique, en tout cas. Et donc, avoir un récit comme celui-ci que raconte le livre de Daniel nous donne des éléments qui nous permettent de placer véritablement notre confiance en Dieu. Le problème avec les récits, vous savez, c'est qu'elles n'ont pas vocation, une vocation normative. C'est pas parce que quelque chose est dit et raconté, et même, quand bien même, qu'elle soit racontée dans la parole de Dieu. Tous les récits ne sont pas destinés à être des enseignements. Ce qui doit devenir des règles pour nous, des règles de vie, des règles de marche, ce sont des éléments théologiques bien fondés. Parce qu'on comprend bien que poser une toison dehors dans la nuit et demander à Dieu à ce que la rosée ne la mouille pas, ce n'est pas la manière normale que Dieu nous demande de faire des choix. Ce n'est pas parce que nous aurons lu dans le texte biblique que la nuée accompagnait le peuple pendant la journée, une nuée de feu pendant la nuit, que c'est forcément la manière d'agir de Dieu avec nous. Pourtant, c'est raconté dans la Bible. Il y a des choses qui arrivent, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont destinées à fournir une méthodologie, une façon de faire. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons comprendre les sous-entendus théologiques qu'il y a derrière. Et le texte d'aujourd'hui nous donne des raisons d'avoir une espérance. Elle est donnée, il est vrai, dans un contexte de l'histoire de Daniel, mais elle vaut, comme je l'ai dit, pour nous. Ce que nous voyons dans le livre de Daniel, si nous l'avons lu, j'espère que nous l'avons lu, pointe en avant de l'histoire, pas que pour Daniel et ses amis, ou pour les enfants d'Israël, mais ça pointe dans l'histoire, dans le futur, pour tous les chrétiens de toutes les générations. Et donc, Daniel, chapitre 2, versets 17 à 30. Et je nous rappelle le contexte. Le roi Nabucodonosor a eu un rêve qui l'a troublé. Il convoque tous les sages de son royaume, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les sorciers donc, chaldéens. Vous savez, ce mot chaldéen, ça ne veut pas dire les gens de la Chaldée. Mais les devins, par exemple, Et donc, il convoque tout ce petit monde-là, et aucun d'eux n'arrive à lui dire ce qu'il arrivait, a fortiori, ce que ça signifie. Et les sages le lui disent au verset 10, « Aucun homme sur terre ne peut faire ce que le roi demande. » Par la suite, le roi se met dans une rage folle et demande à ce que toutes ces personnes qu'il a convoquées, tous les sages de Babylone, ben, qu'ils soient exécutés. Et si vous connaissez suffisamment Nebuchadnezzar, vous savez que ce ne sont pas des paroles en l'air. Qu'il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Daniel apprend la nouvelle, parce que lui aussi est menacé. Ses amis aussi sont menacés. Alors qu'est-ce qu'il fait? Verset 17, il rentre chez lui, il en informe ses trois amis, Ananias, Michaël et Azaria, et Daniel les invite à une réunion de prière pour implorer le Dieu des cieux. Notez bien cette expression, le Dieu des cieux. Vous savez, en Israël, Dieu était considéré comme le Dieu de toute la terre. Ici, il parle du Dieu des cieux. Et on aurait pu s'attendre à ce que l'auteur s'attarde sur ce fait, sur la proposition de Daniel d'intercéder auprès du Dieu des cieux, sur l'importance de la prière, par exemple, qui plus est une prière qui a vu son exaucement. Mais ce n'est pas ce sur quoi l'auteur vient s'attarder. Il va s'attarder plutôt sur la louange de Daniel, versets 20 à 23. Et dans cette louange, il y a, nous allons le souligner, quatre raisons dans le texte, quatre raisons théologiques dans lesquelles nous pouvons fonder notre espérance, en particulier dans un contexte de crainte comme celui dans lequel vivaient les Israélites en exil. Nous retrouvons ces raisons à la fois dans la louange qu'offre Daniel à Dieu et dans le témoignage qu'il pose devant le roi également. Et nous verrons premièrement, selon la louange de Daniel, que toute sagesse appartient à Dieu. Ça, c'est une première vérité qu'il va poser. Toute sagesse appartient à Dieu. Vérité pour tous les temps. Pas que pour Daniel. Et deuxièmement, Dieu est souverain sur les affaires des hommes. Troisièmement, les hommes ne peuvent pas connaître la pensée de Dieu en dehors d'une révélation spéciale. Si Dieu ne décide pas de se révéler, on ne sait rien. Et quatrièmement, la révélation de Dieu à l'homme est un acte de pure miséricorde. C'est parce qu'il a pitié de nous. C'est parce qu'il fait miséricorde. Et donc, je disais, hein, ces quatre éléments du texte sont les fondements théologiques de notre espérance. Ils nous disent pourquoi nous pouvons espérer à nous et à tous les peuples, de toutes les générations, de toutes les cultures, dans toutes les nations. Et donc, premièrement, toute sagesse appartient à Dieu. Au verset 2, au chapitre plutôt 2, versets 20 à 21, il est dit que Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Et dans son témoignage, au verset 28, il dit qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Le principe est le même. Toute sagesse appartient à Dieu. Si vous avez lu le livre de Daniel, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, est principalement une bataille entre deux sagesses. Sagesse qui vient de Dieu et sagesse des hommes. Rappelez-vous, hein, dans le chapitre 1, Daniel nous fait comprendre, en posant le cadre au verset 3, que le roi demande à ce qu'on lui amène des Israélites de lignée royale, de familles nobles, des jeunes gens sans défaut physique, de belle apparence, des jeunes gens dotés d'intelligence et de sagesse dans tous les domaines. Il ne veut pas n'importe qui. Et pourquoi ça? Ben, pour qu'ils puissent entrer au service du roi. Nabuchodonosor voulait trouver des jeunes possédant la meilleure sagesse que la culture israélite pouvait offrir. On pourrait dire que, bon, c'est une bonne chose. Oui, mais du point de vue de Nebuchadnezzar, sa sagesse à lui, en tout cas de sa culture, est meilleure que la leur. Alors, qu'est-ce qu'il se propose de faire? Ben, de leur inculquer cette sagesse. 3 ans de formation. Il faut apprendre la langue, il faut apprendre la culture, la littérature babylonienne pour pouvoir entrer au service du roi. Mais pour pouvoir aussi prétendre à une sagesse meilleure, supérieure. Parce que celle des Israélites, bon, sagesse, mais petite, quoi. Après tout, nous les avons battus. Notre Dieu a été plus fort que leur Dieu. Ils sont sous notre domination. Et donc, le chapitre 1 pose le cadre, là, de cette bataille. Mais la question, c'est, d'où vient la sagesse? Ou devrais-je dire, de qui vient la sagesse? À la fin du chapitre 1, il est dit que chaque fois que le roi consultait Daniel et ses amis, Anania, Michaël et Azaria, sur des questions exigeant à la fois la sagesse, du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages, magiciens de son royaume. Et pourquoi ça? Est-ce que parce qu'ils ont acquis 10 fois plus de connaissances par rapport aux Babyloniens? Bien sûr que non. C'est parce que la sagesse vient de Dieu. La sagesse que Dieu donne est de loin meilleure que la sagesse des hommes. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de sagesse. Proverbe 2, verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Chapitre 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Dieu qui donne tout simplement et son reproche, ben, il vous en donnera de cette sagesse. Dieu est la source de la sagesse. Et en disant ça, je ne dis pas que les personnes qui ne connaissent pas Dieu ne connaissent rien du tout. C'est pas ce que je dis. Il y a des personnes très intelligentes qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des personnes, oui, que lorsque on les rencontre, lorsqu'on leur parle, on a l'impression qu'ils ont 2 cerveaux. Ou en tout cas, on se demande où est-ce qu'ils ont pu mettre toutes ces informations qu'ils arrivent à sortir. On se sent tout petit devant eux, à cause de leur grande connaissance. Pourtant, s'ils disent dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu, ils ne sont rien d'autre que des insensés instruits, éduqués. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il y a une notion qu'on appelle la grâce commune. Je ne sais pas si vous êtes habitué avec cette expression, la grâce commune. C'est une grâce dont bénéficie toute l'humanité. Une grâce qui permet, par exemple, de profiter de la vie, d'apprendre, de prospérer. C'est ce qui permet à nos gouvernants d'être des gouvernants, d'être en place, aux ingénieurs d'inventer, de construire. C'est encore cette grâce commune qui nous permet d'avoir une culture de l'art, de l'architecture. La culture de Nebuchadnezzar possède ces choses. Et pourtant, elle est construite sur des fondations toutes humaines, qui voient l'homme comme le centre de l'univers, un petit peu comme notre société française et partout ailleurs, qu'on appelle l'humanisme, et qui met l'accent sur la centralité de l'homme. L'homme est mis en avant, et pas Dieu. Et vous comprenez bien qu'avec un tel échafaudage, notre civilisation, elle est toute branlante, comme l'a été la civilisation babylonienne, malgré sa puissance de l'époque. La vraie sagesse commence avec Dieu. Et c'est une vérité de tous les temps. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas la finalité des choses, par exemple. Et dans ce cas, de deux choses l'une, soit vous en abusez de ces choses, soit vous les adorez, parce que vous êtes en manque de repères, parce que vous êtes décentré. Et donc là, Daniel nous rappelle que c'est Dieu la source de toute sagesse. Et pourquoi est-ce que savoir cela nous procure-t-elle une espérance? Parce que nous connaissons Dieu, nous qui lui appartenons. Et même si nos cerveaux n'ont pas toute la connaissance dont nous souhaiterions, mais nous connaissons Dieu. Cela nous conduit au ciel. Deuxièmement, Dieu est souverain sur les affaires des hommes. Regardons le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Au verset 28, il nous est dit que Dieu a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les temps à venir. Et vous savez, ce n'est pas comme si ce roi-là avait le choix. Dieu lui fait clairement comprendre que ce que tu as vu dans ta vision, c'est ce qui va arriver dans le futur. Et je ne te demande pas s'il te plaît. Je te dis que c'est ça qui va arriver et pas autre chose. Qu'il le veuille ou pas, c'est ce que Dieu va faire et Dieu le fait savoir. Et d'ailleurs, la suite du livre de Daniel nous montre que Nebuchadnezzar s'est rebellé contre ce rêve-là. On le verra par la suite. Dans le rêve que le roi a fait, il est question d'une statue avec une tête d'or et puis différentes parties du corps avec différents matériaux. Mais plus tard, dans le récit de Daniel, Nebuchadnezzar érigera à lui une statue à son effigie, tout en or. Et en faisant cela, il dit à Dieu, « Tu n'es pas souverain sur les affaires des hommes. Je ne peux pas m'évincer. Je suis plus que la tête d'or. Je suis toute la statue. Je suis le royaume qui subsistera toujours. » Mais ce n'est pas une alternative que Daniel propose à Nebuchadnezzar. Daniel, lui, dit que le Dieu des cieux te fait savoir ce qui va advenir dans la suite des temps. C'est une certitude, parce que Dieu est souverain sur les affaires des hommes. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on aurait pu insister sur le fait que Daniel a convoqué une réunion de prière en invitant ses amis à prier avec lui pour débloquer une situation, celle-là dans laquelle il se trouvait. Daniel prie et Dieu répond à sa prière, évidemment. Et si nous empruntons ce chemin, nous finirons par conclure que, il faut prier et Dieu répondra. Et parfois, on le dit et dans ce qu'on dit, on entend qu'il répondra nécessairement à nos prières, mais sincèrement. Pensez-vous que Daniel ait pu prier, par exemple, pour qu'il puisse sortir de l'exil? Bien sûr que oui. Si vous étiez en prison injustement, ne prieriez-vous pas pour en être délivré? Bien sûr que oui. Est-ce que Dieu a répondu à cette prière? Peut-être pas comme Daniel aurait pu espérer. Et je dis peut-être pas parce que je crois que Dieu répond toujours à nos prières. Et peut-être que c'est nous qui ne discernions pas ce qu'il nous dit dans la réponse qu'il nous donne. Certainement que Dieu a répondu à cette prière en sous-entendant « Je veux sortir de l'exil, mais écoute, pas avant 2 ou 3 générations. Toi et tous ceux que tu connais en exil, vous allez mourir en esclaves. En exil. Et ce sera la 2e ou la 3e génération après toi qui sortira de l'exil. Mais pour le moment, tu restes dans cette situation. Et peu importe la ferveur de la prière, Dieu est souverain sur les affaires des hommes. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, Dieu répond à la prière de Daniel et ses amis dans notre texte? Et pourquoi pas permettre à Daniel de sortir de l'exil? Eh bien, pour nous donner une espérance. Vous imaginez bien que si Daniel avait pu sortir de l'exil, ou même ne pas être en exil, nous n'aurions pas eu le livre de Daniel. Et nous n'aurions pas ce message de Daniel. La vie de Daniel n'aurait pas pu nous inspirer. Vous savez, les choses arrivent dans nos vies. Des choses difficiles parfois. Et bien souvent, on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que ça arrive à moi? Parce que Dieu est souverain sur nos affaires. L'espérance que nous avons, c'est que nous appartenons au Dieu qui a créé l'univers. Ce Dieu tout-puissant. Et qui va être glorifié. Mon plus grand désir en tant qu'enfant de Dieu, c'est que lui soit glorifié. Et pas que mes besoins soient accomplis. Dieu est souverain sur les affaires des hommes. Dire que Dieu est souverain, c'est dire qu'il a toute autorité et que son autorité est au-dessus de toute autre autorité. Personne ne peut le contredire. Personne ne peut aller contre sa volonté. Tout ce qu'il fait est bon. Si vous ne croyez pas à la souveraineté de Dieu, permettez-moi de vous dire que vous n'avez aucune espérance. Aucune espérance. Savoir que Dieu est souverain sur toute chose, c'est ce qui donne l'espérance. C'est ce qui nous permet de placer notre confiance en lui. Avez-vous déjà réfléchi au fait que si les choses sont comme elles sont dans notre vie, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi? Même si ça nous embête, même si ça nous fait mal, la souveraineté de Dieu, c'est ce qui nous donne l'espérance. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui nous font souffrir. Est-ce qu'il m'arrive de me dire que si je suis malade, si je suis handicapé, si j'ai un accident, une tumeur, si j'ai été renvoyé de mon travail, si ma mère, mon père, mon enfant est décédé, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. et tout ça pour sa gloire. Est-ce que je réfléchis comme ça, moi, enfant de Dieu? Si nous ne croyons pas cela, comment pourrions-nous croire qu'il est capable de nous emmener au ciel? Comment est-ce que nous pourrions croire qu'il est capable de nous conduire toute une vie à travers nos difficultés? Qu'il est capable de nous soutenir? Qu'il a nos vies entre ses mains? Ma confiance est placée dans un Dieu souverain pour conduire ma vie et pour donner gloire à son nom. En tout cas, c'était une réalité dans la vie de Daniel et ses amis. Esclaves, exilés dans un pays étranger, hostiles à leur foi en ce Dieu souverain. Et donc, nous avons besoin, nous aussi, de savoir que Dieu est souverain, qu'il a toute autorité. Troisièmement, les hommes ne peuvent pas connaître la pensée de Dieu en dehors d'une révélation spéciale, particulière. Verset 22, Dieu révèle ce qui est profond et caché, dit Daniel dans sa louange. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Vous savez, Nabucodonosor, ce n'était pas un idiot. Notre roi babylonien, on n'est pas idiot. Mais il ne pouvait pas interpréter ses propres rêves. Et bien qu'il se soit entouré de tous les sages de son royaume, ni lui ni aucun des sages n'ont pu savoir quel était ce rêve, et encore moins sa signification. Les Chaldéens qui pourtant sont entraînés à la chose, il y a des écoles spécialisées en Babylone pour ça. Et pourtant, personne. Ils diront même au verset 10 à 11, il n'est personne sur terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et dans ces dieux-là, moi je mets le Dieu Tout-Puissant, excepté lui. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu. Personne ne peut connaître les choses cachées. Comme le dit Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel et pas aux hommes. Vous savez quoi? Même Daniel ne pouvait rien faire. Alors le texte ne le dit pas comme ça. Même Daniel ne pouvait rien faire. Pourtant, il est dit dans le chapitre 1, Daniel savait interpréter les songes et les rêves. Il le fera, oui, mais sur le moment, il ne savait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Et il convoque une réunion de prière avec ses amis. Ils prient ensemble, verset 18, prier au sujet de ce mystère pour que Daniel et ses amis ne périssent pas avec le reste des sages de Babylone. C'est ce qu'il leur demande de faire. Daniel ne dit pas « prier pour que je puisse exercer mon don ». N'est-ce pas? Daniel dit plutôt « prier pour que Dieu soit miséricordieux ». Connaître le rêve du roi n'est pas possible, excepté par une révélation particulière de Dieu lui-même. On ne peut pas connaître la pensée de Dieu si Dieu ne se révèle pas. Oui, les cieux proclament la gloire de Dieu. Et oui, tout homme et toute femme
Tous nous serons
inexcusables devant Dieu. Et c'est l'Épître aux Romains, en chapitre 1, qui le dit. Nous serons inexcusables. Mais toute cette révélation, qui est dite naturelle, est absolument insuffisante pour nous sauver. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette révélation spéciale, particulière, venant de Dieu. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 et 2, est très clair là-dessus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères et par les prophètes, Dieu, dans ces temps derniers, nous a parlé par le Fils. Par le Fils. C'est comme ça qu'il s'est révélé. Par le Fils. L'ultime révélation de Dieu, c'est la personne et l'œuvre du Christ. Nous ne mettons pas notre confiance dans un rêve ou une vision faite pendant la nuit. Nous avons la parole de Dieu et elle est suffisante pour notre salut. Quatrièmement, la révélation de Dieu à l'homme, je le disais, est un acte de pure miséricorde. Vous savez, Dieu n'a aucune obligation de se révéler. Dieu n'avait pas le couteau sur sa gorge pour dire « Coucou, je suis là ». Il aurait pu simplement faire ce qu'il a à faire sans nous le faire savoir. Tout ça que nous avons dans l'Ancien Testament, par exemple, Dieu aurait pu le faire sans jamais que cela soit mentionné et écrit quelque part. Tout ce qu'il est dit dans le Nouveau Testament, la personne et l'œuvre du Christ, aurait pu se faire sans que les auteurs aient pu prendre des notes, sans que Dieu, par son esprit, ait inspiré quoi que ce soit. Dieu n'avait aucune obligation de se révéler. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Il a choisi de se révéler de façon miséricordieuse. Dans les circonstances de la vie de Daniel, Dieu s'est montré miséricordieux envers lui et ses amis. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu, nous dit le texte. Mais Dieu, et ça on le remarque moins quand on lit les textes, Dieu a été aussi miséricordieux envers les sages de Babylone. N'est-ce pas? Savez-vous que les personnes qui nous entourent, les personnes qui gravitent autour de nous, sont bénies parce que nous appartenons à Dieu? Vous l'avez remarqué, ça? Je me rappelle lorsque nous venions d'arriver ici, nous n'avions pas grand-chose, nous avions tout laissé en Guadeloupe. Et c'est difficilement si nous savions comment nous allions nous débrouiller, mon épouse et moi-même, et Jessie avait 3 ans. Et on se demandait comment on allait s'en sortir. C'est vrai que nous étions venus pour les études à la fac. Comment faire sans argent? Dieu nous a fait grâce et Hélène a trouvé un emploi très rapidement. Malgré tout, la situation était compliquée, avec un seul salaire, un loyer à payer, des gens à nourrir, à s'habiller. Il y a 4 saisons en France, vous savez, il faut acheter des vêtements. Et puis, il y a des choses qui se sont faites, des gens qui nous ont donné tas de choses, qui nous faisaient des chèques, donnaient des enveloppes. Récemment, la petite voiture bleue, on l'a pas achetée, hein. Un frère partait à la retraite, il nous a dit, David, tu veux une voiture? Je te la laisse. Et ma sœur qui vient chez nous, gravite autour de nous. Elle me disait, mais David, vous pouvez dire que vous êtes béni, hein? je lui avais dit, reste autour de moi. Les personnes qui gravitent autour de nous sont bénies parce que nous appartenons à Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et il faut que nous en prenions conscience. Les sages de Babylone ont bénéficié de la miséricorde que Dieu a faite à Daniel et ses amis. Parce que Dieu révélant le rêve à Daniel, ben personne n'est tué. Ni Daniel et ses amis, ni les sages, ni les magiciens. Il faut que nous en soyons conscient. Dieu se révèle à son peuple et c'est un acte de miséricorde. Pas seulement envers eux, mais envers nous et envers tous ceux qui nous entourent également. Et j'ai envie de dire, vous voyez nos enfants qui grandissent parmi nous, avec nous, pour lesquels nous prions et nous aurions aimé qu'à leur tour ils grandissent et donnent leur vie au Seigneur. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Ils participent à nos cultes, à nos célébrations, à nos activités. J'ai envie de vous dire, les enfants, vous êtes baignés dans cette bénédiction. Vous êtes baignés dans la parole, vous êtes entourés par la prière de vos parents. Vous bénéficiez des bénédictions qu'ils reçoivent. Même lorsque vous n'en êtes pas conscient. Il peut se passer un long moment avant que vous en ayez conscience, justement. Peut-être à l'âge adulte. Et s'il vous arrive un jour d'expérimenter à votre tour cette bénédiction, et que vos enfants, à leur tour, profitent de cette bénédiction, lorsque ce jour-là arrivera, je vous encourage vivement à prendre vos téléphones ou à aller voir vos parents et à leur dire merci. Merci parce que tu nous as permis de grandir dans un environnement qui nous a profité. Tu nous as présenté au Seigneur. Tu as été, vous avez été, selon qu'on a un ou deux parents. Vous avez été ou tu as été un exemple pour moi, qui m'a conduit à connaître ce Dieu Tout-Puissant, Maître de l'Univers. Il y a ici des raisons d'espérer. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu a fait, il ne s'agit pas de combien nous avons impressionné Dieu. La raison de notre espérance est la même que la raison d'espérer de Daniel. C'est que toute sagesse vient de Dieu. C'est que Dieu est seul souverain. Il a toute autorité sur tout. C'est qu'il est possible de connaître il n'est pas possible de connaître la pensée de Dieu en dehors d'une révélation particulière. Et nous pouvons dire, béni soit le Seigneur. Dieu s'est révélé aux hommes, et par cette révélation, il fait un acte de miséricorde. Par cette révélation, il nous accorde son salut. Nous avons toutes les raisons d'espérer à cause de cela. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni.